franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Gabriel Pereira.
Bonjour à tous.
À lire ce matin, narcotrafic et réseaux sociaux.
Direction la ville de Reynosa, au nord du Mexique. Ici, la presse ne publie plus rien sur les cartels de la drogue. Trop risqué, trop de pression. Alors pour s'informer, les habitants se tournent vers les réseaux sociaux et notamment le compte d'une certaine Felina. Plus de 100 000 abonnés sur Twitter. Catwoman en photo de profil, cette journaliste citoyenne refuse la loi du silence, ou plutôt elle refusait, puisqu'elle a été assassinée il y a quelques jours. C'est le site américain The Daily Beast qui raconte l'histoire de Maria del Rosario, son vrai nom. Cette femme partageait chaque jour des photos de personnes disparues. Elle alertait la population dans des tweets très précis. 10 heures, des coups de feu entendus dans le quartier de Fuentes. 3 hommes armés aperçus dans un pick-up Ford sur la 20e. Sa façon à elle de résister à la dictature des narcotrafiquants, écrit The Daily Beast. Alors forcément, Maria était dans le collimateur des cartels. Il y a un an et demi, ces derniers promettaient 50 000 dollars à quiconque avait des informations sur cette mystérieuse Felina. Son nom, son adresse, premier avertissement le 8 octobre dernier. Maria reçoit ce tweet. « Nous sommes tout proches, fais bien attention à toi ». Pas de quoi la décourager. Maria continue de poster ses alertes. Elle compte de plus en plus d'abonnés. Jusqu'à ce matin du 16 octobre, tweet de Felina. « Mon vrai nom est Maria del Rosario. Je suis médecin et aujourd'hui, je suis morte. » Tout le monde comprend alors que le compte Twitter de Maria a été hacké. Quelques minutes plus tard, terrible confirmation, 2 photos sont publiées. La jeune femme a été enlevée, puis tuée d'une balle dans la tête. Depuis, le compte de Felina a été suspendu. Ses proches et ses amis, tous menacés, ont changé de téléphone. Mais sur les réseaux sociaux, les messages d'indignation et de soutien affluent. « Maria a donné sa vie pour notre sécurité. Plus jamais ça. » Des habitants de Reynosa se disent même prêts à reprendre le flambeau.
Dans la presse également, le patron et l'ambassadeur.
Hommage quasi unanime dans vos journaux après la mort de Christophe de Margerie, le patron de Total. La France a perdu non seulement un capitaine d'industrie, mais aussi un homme à l'influence considérable, écrit Dominique Grenner dans La Croix. Il y a des entreprises qui sont un peu la France, renchérit Thierry Borsa dans Le Parisien. Et Christophe de Margerie portait haut les couleurs de notre pays. Phénomène rare, peut-être unique, analyse Laurent Geoffrin dans Libé. La France, qui n'aime guère ses patrons, s'incline devant la mémoire du PDG de Total. Patron et ambassadeur à une époque où l'économie est la plus puissante des diplomaties, ajoute La Croix. Christophe de Margerie s'estimait porteur d'une double mission, travailler à la fois pour Total et pour la France, explique Jean-Claude Souléry dans La Dépêche du Midi, quitte à assumer des relations politiquement sensibles du Gabon jusqu'en Birmanie, quitte à défendre bec et ongle la Russie, visée par des sanctions de l'Union européenne, sanctions qu'il jugeait sans issue. La Russie, principale zone de production d'hydrocarbures d'ici à 2020 pour Total, rappelle Libération. Voilà pourquoi le PDG tenait à garder de bonnes relations avec Poutine. Voilà pourquoi il prenait aussi la détente entre la Russie et l'Ukraine pour éviter une nouvelle guerre froide. Selon Slate.fr, quand la crise a commencé, Christophe de Margerie a été l'un des rares patrons français à prendre position dans le conflit. 24 avril dernier, il déclarait « Je crois qu'on a le droit et le devoir en tant qu'entreprise d'intervenir dans le débat ». Et lors de sa dernière intervention lundi soir en Russie, quelques heures avant sa mort, il avait demandé à Moscou de corriger son positionnement diplomatique. Question justement, dans Courrier international, Vladimir Poutine voulait-il partager l'Ukraine dès 2008. C'est ce qu'affirme l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais. Radoslav Sikorski vient d'accorder une interview au journal américain Politico et selon lui, en février 2008, le président russe a proposé au premier ministre polonais Donald Tusk de prendre part à la partition de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays artificiel, aurait dit Poutine, et Lviv est une ville polonaise. Alors pourquoi ne pas résoudre cela ensemble? Donald Tusk n'a pas répondu. Car il savait qu'il était enregistré, raconte encore l'ancien chef de la diplomatie polonaise. Parfum de guerre froide, Le Parisien et Libé reviennent de leur côté sur ces étranges manœuvres au large de la Suède. 200 hommes, des bateaux furtifs, des dragueurs de mines, plusieurs hélicoptères, tous à la recherche d'un sous-marin étranger observé à 3 reprises par des témoins. Mystère, cet épisode rappelle les incursions de sous-marins soviétiques près des côtes suédoises pendant la guerre froide. Raison pour laquelle, écrit Le Parisien, les regards se sont sont immédiatement tournées vers la Russie. Mais Moscou dément toute implication.
Quoi d'autre dans la presse, Gabriel ?
Cette première médicale, un homme paralysé jusqu'à la taille, remarche après une transplantation inédite de cellules nerveuses. Ça se passe en Pologne, mais c'est une équipe britannique qui est à l'origine de cet exploit. À retrouver dans le Figaro et la Voix du Nord, Darek Fidica, le patient, parle d'une renaissance. Opéré il y a 2 ans, cet ancien pompier peut désormais marcher à l'aide d'un déambulateur. Il peut aussi conduire une voiture. Concrètement, les médecins ont transplanté des cellules nerveuses du nez sur sa colonne vertébrale. Cellules qui auraient permis aux fibres nerveuses de se reconstituer. Auraient, car il est difficile d'affirmer que cette greffe est bien à l'origine des progrès du patient. Les médecins restent prudents. Cette découverte demande à être développée. Conclusion du Figaro, Darek Didika est le héros d'une belle histoire qui ne doit pas laisser croire que la paralysie appartient au passé. À lire aussi, révélation dans le Canard enchaîné, combien de tomates évenues à l'Assemblée et au Sénat ? Réponse, une 60aine selon l'hebdomadaire satirique qui cite plusieurs sources ministérielles. 60 parlementaires en délicatesse avec le fisc, cela va du petit différend au gros redressement, écrit le Canard. Aucun nom pour l'instant, mais la liste définitive sera connue d'ici à la fin de l'année. Et puis, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Histoire à peine croyable dans le quotidien Presse-Océan. Les faits remontent au 28 juin dernier. Un Airbus de la compagnie Bruxelles Airlines survole Nantes. À son bord, une centaine de passagers et un pilote endormi. Les contrôleurs français multiplient les appels. Pas de réponse. Le copilote ne semble pas là non plus. Du coup, au bout de 10 minutes, un rafale est envoyé. Il prend en chasse l'avion belge et parvient enfin à entrer en communication avec l'appareil. Conclusion de l'enquête, le commandant de bord s'était assoupi et son copilote pensait que les appels concernaient un autre avion. La compagnie Bruxelles Airlines reconnaît de son côté qu'il y a eu confusion.
Oui,
bonne journée.
Confusion, merci. C'était Gabriel Pereira pour la revue de presse sur Inter. Bernard Guetta veut intervenir à propos de l'Ukraine et de la Russie.
Un petit mot par rapport à la revue de presse. Le ministre polonais des Affaires étrangères s'est auto-démenti depuis, en disant qu'il avait été mal compris ou que ses propos avaient été
sur cette interview à Politico dont
sur cette interview à Politico dans laquelle il disait que Vladimir Poutine aurait fait la proposition à la Pologne d'un partage de l'Ukraine entre les deux pays. L'histoire est extraordinairement confuse, d'autant que le voyage du Premier ministre polonais auquel M. Sikorski, l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais, fait allusion, tout simplement, n'aurait pas eu lieu aux dates indiquées.
Bon. Alors on va poursuivre l'enquête.
On en est là.